qu'il y a de service dans la chaise, quelle qu'elle soit, et inévitablement modéliser ou, si vous voulez, accompagner d'une qualité esthétique finalement, hein, qui n'est pas intégrable dans la stricte définition du service de l'objet. Eh bien, je pense que ce sont ces modalités qui intéressent le design. C'est-à-dire que la définition que je suis en train de vous proposer est que le design, c'est pas la production d'un service, c'est la modalisation mettons d'un service, si vous voulez. En tout cas, c'est produire des modes. Je vais revenir sur cette proposition, naturellement, de définition. Je peux dire les choses dans l'autre sens. Je peux dire, mais ça revient au même, qu'il n'y a plus de design lorsque la modalisation, pour des raisons qu'il faut à ce moment-là se mettre à étudier, devient résiduelle. Lorsque vous ne pouvez plus, je ne dis pas moduler, hein, modaliser un objet que résiduellement, alors au fond, cet objet n'a plus d'intérêt pour le design. Par exemple, le grille-pain. Voilà. Le grille-pain ne peut plus être modalisé que résiduellement. Et il y a beaucoup d'objets techniques qui, d'une certaine manière, finissent leur carrière dans l'instrumentation, hein, et qui, peut-être, au fond, sont des objets, d'une certaine manière, finis. Pas parce qu'on a fini de s'en servir, mais parce que le champ de modalisation est devenu faible, ou peut-être n'a jamais existé, je n'en sais rien. Après tout, il faudrait étudier les choses de plus près. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à modaliser. Donc, je donne cet exemple du grille-pain. C'est-à-dire que finalement, les différences entre un grille-pain et un autre sont peut-être des différences de carrosserie. Elles ne sont pas essentielles. Ce n'est pas la même chose avec les chaises dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Donc à ce moment-là, ça reste des objets techniques, mais ce ne sont plus des objets qui intéressent de manière essentielle le design. Donc le champ du design serait ouvert par le fait que de la modalité est possible. On peut dire les choses encore un petit peu différemment, mais ça sera assez abstrait. Il y a design lorsqu'une modalité, ce que je suis en train d'appeler une modalité, est mise en œuvre. Ce qui peut se dire encore de la manière suivante, ça ne va pas devenir tout de suite plus simple, lorsque une possibilité du possible, si vous voulez, hein, est découverte. Je vais donner deux autres exemples pour illustrer cette proposition très très abstraite. Récemment, à la Biennale du design de Saint-Étienne, J'ai été intéressé par toutes sortes d'objets, mais je vais en garder deux, si vous voulez, pour cette soirée, pour le propos que je tiens tout de suite. C'est présenté sous le nom de ventilateur, mais je ne suis pas sûr que ça soit un ventilateur. C'est un ventilateur proposé par Dyson, donc vous connaissez certainement ce nom de marque. En réalité, c'est un pulsateur d'air. En tout cas, c'est un objet circulaire avec des petits trous par où de l'air est soufflé, hein, et pas ventilé. Alors, bon, évidemment, l'objet, même s'il y a une coupe de l'objet qui est présentée dans la Biennale du design de Saint-Étienne, on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, et peut-être qu'à l'intérieur, il y a quand même une petite hélice, hein, qui produit de la ventilation, laquelle est au fond amplifiée par le système technique mis au point par Dyson, mais au fond, l'objet en question vous rend le service d'un ventilateur, si vous le mettez chez vous, mais il ne ventile pas comme un ventilateur. Et il produit d'ailleurs une circulation de l'air dans la pièce qui n'est pas celle que produit un ventilateur. C'est très sensible, et c'est très évident dès qu'on regarde la fiche technique de l'objet. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe et qui fait que c'est un objet intéressant. Alors, je le prends en particulier parce que c'est un objet que je vais chercher dans la grande industrie. Exprès. Bon. Y a peut-être une rupture, ce que j'appelle une rupture de paradigme. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, dire, on va rendre le service, ventiler une pièce ou un appartement, mais sans passer par la procédure habituelle, qui n'est plus capable que d'être modalisée accessoirement. Hein, tu vois, on peut faire le ventilateur avec une grille argentée ou peinte en blanc, etc. Non, là, on change la façon de dessiner, de designer l'objet. Il y a une rupture de paradigme. Il n'y a pas d'hélice, il n'y a pas de ventilation. Et c'est pourtant le même service qu'on rend. Donc, je reviens à ma formule, le possible du possible. Bon, ventiler une pièce, aérer une pièce, enfin, rendre le service qu'on appelle ventiler, même si au bout du compte, ce service va être rendu par une pulsation de l'air. Hein. Ventiler une pièce, c'est possible. Et le travail du design consiste à montrer qu'il y a une possibilité dans cette possibilité qui n'était pas encore travaillée et qui va être découverte par le travail de design, qui est un travail à ce moment-là qu'on pourrait qualifier de profondément créatif et pas simplement un travail prenant pour champ les apparences. Hein. C'est le paraître même qui est touché. Je fais une différence, hein, tout ce qui est de l'ordre du paraître n'est pas de l'ordre de l'apparence. Ça peut s'entendre dans la langue française, hein, si on dit la parution de quelque chose, quand quelque chose paraît au sens de prend parution, c'est pas la même chose que avoir une apparence, un paraître. Là nous avons un cas intéressant de paraître, de parution de quelque chose, qui consiste à chercher, on pourrait presque dire, une possibilité au second degré. Hein. On savait que ventiler, c'était possible, on avait déjà des ventilateurs, et on va découvrir, pour cette possibilité même, bon, dans un langage plus courant, on pourrait peut-être dire une manière de faire, une possibilité. Hein. Autre exemple, que j'emprunte également à la biennale, à la dernière biennale du design de Saint-Étienne, un vélo présenté très sobrement, c'est-à-dire sans commentaire par la marque Peugeot, et qui est un vélo sans chaîne. Voilà, il n'y a pas de chaîne. La selle n'est pas non plus posée sur un tube vertical. Donc l'assise, le système qui assure l'assise du possible cycliste qui se servirait de ce vélo est certainement doté de propriétés d'élasticité qui me font penser à la chaise de Bruyère. Donc il y a une redéfinition du principe de l'assise et surtout du principe de locomotion puisqu'il n'y a pas de chaîne. Hein, donc il y a une pensée d'un système de transmission de l'effort du cycliste à la roue motrice qui passe, je pense, par ce que j'ai appelé à l'instant une rupture de paradigme, et qui fait qu'il y a du design là-dedans, pas parce que le vélo a une apparence différente des vélos habituels, mais parce que le vélo repose sur une possibilité de faire vélo qui n'avait jusqu'à présent pas été découverte. Et là, je pense qu'il y a du design. Là, je pense qu'il y a du design, mais il y a du design en tant que ce qui a été cherché, ça n'est pas le service, mais la modalisation du service. Est-ce que ce raisonnement, sinon vous convient, au moins vous est clair? Est-ce qu'il est clair pour vous? Je l'espère. Voilà. Car je voudrais, à partir de là, vous proposer la deuxième grande partie de mon raisonnement de ce soir, et vous dire que c'est ça que j'appelle, ou je pense qu'on peut appeler, utile. Voilà. L'utile, c'est une modalité du possible, je vais interpréter cette phrase, hein, ou cette proposition dans ma deuxième partie, c'est une modalité du possible. C'est-à-dire, c'est une modalité. Le possible, c'est quoi? Le possible, c'est vieux raisonnement philosophique que j'emprunte à Aristote. Hein. Le possible, c'est ce qui n'est pas, du verbe être, hein, ce qui n'est pas de manière nécessaire, ce qui n'est pas nécessairement, ce qui est sans nécessité, ce qui en français on dit ce qui peut être, hein, ce qui peut être. Ce qui peut être, mais qui n'est pas nécessaire, et qui n'est pas de manière nécessaire. Bon. Ça, c'est le possible. Le mot philosophique pour dire ça, c'est aussi contingent. Ce qui n'a pas de présence nécessaire ou d'existence nécessaire, ce qui est contingent, ce qui est possible. La difficulté théorique, conceptuelle et aussi pratique au bout du compte, dans laquelle je me trouve là tout de suite pour essayer de vous expliquer ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est très difficile à comprendre, mais qui, je pense, nous intéresse ou devrait nous intéresser prodigieusement, c'est qu'il n'y a pas... D'abord, il n'y a pas qu'une seule sorte de possible. C'est-à-dire que si vous pensez le possible au singulier, vous pensez mal. Si vous me permettez que je dise les choses aussi brutalement, hein. Pour qu'il y ait du possible, il faut forcément que possible soit pensé au pluriel. C'est-à-dire que si vous avez un seul chemin devant vous, il n'y a qu'une seule route, il n'y a pas de possibilité. Voilà. Pour qu'il y ait une possibilité, il faut forcément qu'il y ait au moins deux chemins. Voilà. Donc, on ne peut, à mon avis, véritablement entendre la notion de possible que si on l'entend au pluriel. Mais, en plus, il faut arriver à concevoir, si vous voulez, qu'il y a plusieurs façons de se rendre sur la route possible, qui n'est déjà pas la route nécessaire, qui n'est donc pas la seule route. C'est-à-dire que non seulement pour qu'il y ait de la possibilité, il faut faire un choix d'orientation, faire advenir une possibilité, c'est choisir une orientation parmi d'autres possibles qu'il faut donc envisager. Mais en plus, il y a du second degré là-dedans. Et c'est ce second degré qui, à mon avis, intéresse le design. C'est-à-dire que la voie possible parmi d'autres, elle peut elle-même s'emprunter sur plusieurs modes. Voilà. Et les modes du possible, je pense que c'est ce qui correspond à l'idée de design telle que, en tout cas pour ma part, je peux la soutenir. Alors il faut bien comprendre évidemment que dans cette affaire, rien n'a de nécessité. Ni de réaliser cette possibilité plutôt qu'une autre, de prendre cette route plutôt qu'une autre, ni le mode dans lequel ça va se faire. Mais que, en même temps, que rien ne soit nécessaire, c'est ce qui fait que de tout, nous pouvons nous sortir. Qu'il n'y ait pas de système, qu'il n'y ait pas de logique nécessaire, c'est ce qui fait que dans quelques situations que nous nous trouvons, nous pouvons trouver une issue, une reformation, une reformulation, une modalité. Je pense que c'est tout à fait essentiel pour comprendre que, au fond, nous avons toujours de l'avenir. Voilà. Nous avons toujours de l'avenir, c'est-à-dire il y a du possible devant nous et des modalités de réalisation du possible lui-même. Bon. Donc j'insiste beaucoup sur cette idée que ça, là, que je soutiens, le possible et ses modalités n'a pas de nécessité. Donc, je dirais d'ailleurs, aucun objet technique n'a de nécessité, hein, déjà. Rien n'a de nécessité, rien n'est nécessaire. Voilà. Ce qui nous intéresse de manière essentielle, nous autres, les humains, c'est précisément d'avoir à régler, faire des choix, dans un monde qui n'est pas nécessaire, qui est ouvert par essence pour nous aux possibilités. Et à chaque fois que nous fermons du possible, c'est-à-dire que nous produisons, alors sinon du nécessaire, de l'obligatoire, hein, nous nous affaiblissons dans notre puissance existentielle, nous nous enfermons, si vous voulez, je ne sais pas comment dire ça autrement qu'avec ce genre de métaphore, hein. Nous enfermons. Et donc dans la pensée, si nous nous mettons à penser que forcément ce que nous faisons c'est pour servir, si dans ce pour servir, peu ou prou, nous acceptons l'idée que c'est servile, hein, c'est-à-dire ça ne peut pas ne pas faire autre chose que ce que ça fait, être utilisé autrement que comme c'est utilisé, etc., etc., que ça n'a pas même, que ça n'est pas même une modalité, hein, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire autrement que comme ça, voilà. Si nous nous mettons à penser les choses de cette manière, je dirais, nous nous faisons mal, voilà. Nous faisons mal et nous nous faisons mal. Bon. Donc, je soutiens, encore une fois, l'idée que le design vise à ouvrir des possibilités, à faire diverger des capacités de production, à produire, alors, strictement, philosophiquement, de l'utile, c'est-à-dire du non nécessaire. Je fais rentrer, en bon lecteur d'Aristote, enfin, je crois, en tout cas, c'est là que j'ai trouvé le fondement de l'idée que je vais vous dire maintenant. Je fais rentrer l'utile foncièrement dans la catégorie du non nécessaire. Nous sommes entourés d'utilités. Alors, ces utilités, en effet, nous servent. Mais il y a toujours quelque chose, si vous voulez, qui, dans ce service, dépasse, excède. Le service, les fameuses qualités dont je parlais tout à l'heure, hein, et c'est ça l'utile. C'est ça l'utile. C'est tout ce qui fait que ce qui nous entoure échappe à la nécessité ou à l'obligation. Bon, si vous acceptez ça, et pas tout à fait fini hein, avec la réflexion, parce que vous êtes obligé de vous apercevoir que le contraire conceptuel de utile, ainsi défini, hein, l'utile est marqué par le fait, un objet utile est marqué, est défini par le fait qu'il n'a pas de nécessité. Voilà. Il n'est pas dans la nécessité. Bon. Ben, cette définition que je viens de dire, c'est exactement celle que d'ordinaire à laquelle d'ordinaire on se réfère pour définir l'inutile. L'inutile, c'est ce que je viens de dire. Voilà. L'inutile, c'est ce dont on peut se passer. Ce dont on peut se passer, c'est-à-dire ce qui n'est pas nécessaire. Mais l'utile, c'est pareil, tel que je viens de le définir, hein, si j'ai été clair. Si les objets sont modalisables, ils n'ont pas de nécessité, donc il n'y a pas de différence entre l'utile et l'inutile sur le plan philosophique. Je suis désolé pour cette complication, hein, mais je n'arrive plus à penser autrement. Hein. Que, en fait, cette opposition utile-inutile est une opposition inutile. Voilà. Sans intérêt. Le concept véritablement opposé à utile, en tout cas, d'après Aristote, auquel, en fait, je me réfère à l'instant, c'est nuisible. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dans un très très court texte, très très rapide passage de la Politique, Aristote définit, certains étudiants que je connais ici le savent, parce que je leur en ai déjà suffisamment parlé. Aristote dit, à un moment donné, il faut parler de la différence, je ne vous donne pas le contexte, ça serait trop long, mais il faut parler de la différence entre l'utile et le nuisible. Et c'est pas une erreur de traduction, j'ai vérifié, hein, c'est bien ce qui est écrit dans le texte, c'est-à-dire il n'oppose pas l'utile à l'inutile, et il a raison, bon, je pense pour le raisonnement que j'essayais de produire il y a quelques minutes, mais au nuisible. Donc l'utile, c'est dans le possible ce qui, on pourrait dire finalement, ne nous fait pas de mal, voilà, n'est pas nuisible. Le concept opposé à l'utilité, c'est la nuisance. Voilà. Bon, c'est peut-être un élément de discussion. Alors, je vais ajouter une dernière remarque, qui nous laissera, je pense, pas mal de temps pour discuter. C'est que, toujours, j'ai essayé de tourner, un peu compliqué, hein, autour de ces concepts. Si l'utile, c'est pas nécessaire, en tout cas, les Grecs pensaient comme ça. En tout cas, Aristote pensait comme ça, si vous voulez. Je veux dire, peut-être prendre les choses de cette manière-là, de façon un peu autoritaire, l'argument d'autorité. Hein. Chez Aristote, c'est comme ça. Après tout, ça ouvrira le champ de la discussion. Il appelait contingent non nécessaire. Par conséquent, l'utile est là-dedans. Hein. Les choses qui ne paraissent pas d'elles-mêmes, les choses qui ne paraissent pas automatiquement, on pourrait dire les choses qu'il faut aller chercher, dont il faut aller chercher la production. Duction, c'est comme conduite. Pro, ça veut dire en avant. Le faire paraître, dont je vous parlais très rapidement tout à l'heure. Les choses non nécessaires, elles ne paraissent pas d'elles-mêmes. Dans une traduction rapide d'Aristote, on pourrait dire elles ne sont pas naturelles. Elles n'appartiennent pas simplement à l'ordre de ce que les Grecs appelaient la physis, qu'on a traduit par nature, hein, physis, mot dans lequel le fût de physis, les Grecs de l'Antiquité entendaient, je peux commenter ça, faire un mouvement, le venir au jour, l'éclosion de quelque chose, le paraître, le venir apparaître. Hein. Donc par exemple de parution naturelle, c'est l'éclosion d'une fleur sur ou à la place d'un bourgeon. Hein. Ça, c'est l'ordre de la physis. Et ça, les hommes, disait Aristote, vivent ça nécessairement. Nécessairement, les arbres, si on les laisse être, produisent des fleurs. Bon, en tout cas certains arbres. Hein, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Bon. Là-dedans, il y a donc de la nécessité, au sens d'Aristote. Ça n'est pas contingent. Mais un certain nombre d'objets avec lesquels nous vivons, nous autres les humains, et même, je pense qu'on pourrait généraliser, et dire, en fait, tous les objets avec lesquels nous vivons, nous autres les humains, sont des objets qui sont venus parmi nous à l'issue d'un certain travail, à l'issue d'une certaine conduite, donc un travail, conduite ou travail, auquel le mot de « techné » convient. Travail technique. La technique, c'est ça. C'est faire venir au jour, par une conduite humainement définie, quelque chose qui, sans cela, ne paraîtrait pas. Donc, ça n'est pas nécessaire. Ça ne paraît pas de manière nécessaire. Ça ne paraît que si on fait quelque chose au monde pour que cette chose paraisse. Tout ce qui est utile est intégré par Aristote dans cette grande catégorie-là. Il y a aussi des choses que nous faisons paraître et qui ne sont pas utiles au sens d'Aristote, c'est-à-dire qui sont nuisibles, qui se révèlent finalement nuisibles. Il n'y a pas de nécessité là-dedans. Il n'y a pas de nécessité là-dedans, mais en même temps, pour que ça soit, il faut faire quelque chose de particulier, conduire un certain travail, développer une certaine technique. Eh bien, si on ajoute à ce raisonnement qui n'est pas immédiatement présent dans le texte d'Aristote, mais qui, si vous voulez, pourrait s'installer à partir du type de considération que je viens d'essayer de vous proposer, que non seulement les hommes, par leur conduite technique, ont la capacité de faire paraître des choses qui n'ont pas de nécessité, et qui donc ouvrent le champ aux utilités, mais qu'en plus, ils peuvent organiser, se faire paraître de plusieurs manières, qu'en plus, se faire paraître de plusieurs manières, il peut donner lieu à plusieurs parutions, à des modalités, comme je disais tout à l'heure, eh bien, je ne sais pas si mon raisonnement est suffisamment explicité pour vous, mais vous ouvrez la possibilité, quelque chose qui va, je pense, intéresser Olivier Assouli, vous ouvrez la possibilité pour les humains de préférer. Préférer cette utilité plutôt qu'une autre, préférer cette manière de la faire paraître plutôt qu'une autre, préférer cette modalité de l'utilité plutôt qu'une autre. Le fait qu'il n'y ait rien de nécessaire vous permet de préférer. Voilà. Ou ça va ensemble, on peut dire ça un peu différemment. Nous sommes des êtres capables de préférer parce que notre monde est fait par nous d'utilité, c'est-à-dire que nous ne cessons de modaliser. Et quand la modalisation n'est plus possible, au fond, il n'y a plus de véritable, je ne sais pas comment dire ça, ou authentique préférence. Voilà. Il me semble qu'en ayant tenu ce propos peut-être un peu condensé, un peu ramassé, mais on peut discuter, j'ai quand même un petit peu essayé de remplir la promesse que j'avais faite dans mon titre, définir l'utile. Voilà.
Alors moi j'aimerais revenir sur d'abord sur la richesse et la promesse de votre exposé. Et évidemment, en vous entendant sur cette question de la modélisation, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à des choses que j'ai lues qui recoupent mon travail sur la question du goût, où effectivement vous avez fini sur la question des préférences qui n'est pas celle du goût, mais qui n'en est pas nécessairement très éloignée. Et en pensant notamment à un terme que vous avez évoqué, la question de l'achèvement et de l'inachèvement. Et vous avez parlé des produits finis ou des produits inachevés. Et on peut penser aujourd'hui à deux choses, soit aller puiser dans le registre littéraire et se remettre en perspective ce que dit par exemple Paul Valéry à propos de Mallarmé, en disant que ce qu'il a senti à la lecture de Mallarmé, c'était que le lecteur était mis au travail et que le lecteur ne pouvait pas faire autrement que se heurter à une difficulté qui faisait nécessairement de la lecture du lecteur un demi-créateur. Hein, c'est, je cite littéralement. Et au fond, c'est une manière de dire que le texte de Mallarmé est un texte inachevé, précisément parce qu'il appelle tout un travail d'exégèse, d'interprétation, qui pourrait recouper peut-être la notion de modélisation. Et je pensais à une deuxième chose qui est beaucoup plus contemporaine. Cette fois, c'est tout ce qui se passe. Je le pose vraiment à titre de réflexion, tout ce qui se passe dans le domaine du logiciel libre, où des individus produisent en réseau à travers l'open source, où précisément il n'y a pas de produit, hein, comme le serait un logiciel classique. Il n'y a pas de produit parce qu'il n'y a pas quelque chose qui résulte de manière finie, mais il y a un objet qui est ouvert et qui va être en permanence amendé, transformé en évolution. Donc ça, c'est le premier point. Après, à partir de là, on a au fond, dans le champ, j'ai pris la poésie de Mallarmé et le champ des technologies du logiciel, on a potentiellement des objets dits ouverts ou inachevés qui pourraient donner lieu à peut-être ce que vous appelez des modélisations. Après, je me demande, pour passer sur une réflexion beaucoup plus triviale, comment au fond on peut mettre en œuvre un objet capable de proposer de la modélisation sans formaliser à travers un nombre, un système d'options ou un nombre de possibilités, on va dire, finies, limitées, ce que vous appelez la modélisation. Autrement dit, comment on peut éviter, comment est-ce que le producteur peut produire un objet ouvert, qui ne soit pas un produit, sans au fond réintégrer à nouveau quelque chose comme j'ai envie de dire un système d'options. Hein, un petit peu comme on l'a vu d'ailleurs dans le parler de design, comme l'a fait dans les années 20 General Motors en instituant dans le département de style un système d'options où au fond il y a quelque chose comme un choix impossible, hein, même s'il est fortement limité. Après, ma deuxième remarque, elle porte sur le choix très juste, hein, de l'instrument de musique, qui porte, comme vous l'avez bien montré, mal son nom, et qui suppose un rapport plutôt que de fin à moyen, plutôt qu'un rapport d'association ou de couplage. Je me demandais si vous pouviez l'appliquer de manière très ordinaire au travail technique, marteau, l'enclume, etc. Si uniquement l'instrument de musique ouvrait ce possible, ou si dans le champ technique, au sens beaucoup plus ordinaire, on voyait ce type de rapport. Voilà, je suis désolé, j'étais long.
Non, non, je vous en prie. Je commence par la fin, si vous voulez. D'accord. Je vais répondre sur un mode un tout petit peu anecdotique. Enfin, je peux donner la réponse rapidement à la seconde de vos questions. Enfin, il y a un groupe de premières questions, et puis ensuite, il y a la seconde. Ben, l'exemple la réponse que je donnerai, c'est la machine-outil. La machine-outil, l'articulation de la machine-outil à un certain nombre de réglages en fait un appareil, ou peut en faire un appareil. Alors, j'y avais modestement pensé moi-même, mais bon, dire oui, avec un peu d'hésitation, et jusqu'à ce que, donc ça c'est la partie anecdotique de ma réponse, dans un jury de thèse dont je m'étais occupé, et où il y avait donc tout un développement sur l'appareil photo, enfin en gros ce que j'ai dit là maintenant, Armand Hatchwell, qui lui s'y connaît en machine, a dit mais c'est la même chose qu'une machine outil. Voilà. Et je pense que cette réponse, enfin moi me satisfait tout à fait. Et même on peut aller au-delà, mais cette réponse que je donne massivement tout de suite, je vais la compléter par une petite remarque sur la première série de questions que vous m'avez posées dans un instant. On peut peut-être considérer, par exemple, des grandes structures industrielles comme, à une époque, j'ai un peu travaillé là-dessus, la sidérurgie Lorraine, par exemple, les grandes usines sidérurgiques, enfin, elles n'ont pas besoin d'être Lorraine, hein, mais enfin, moi, c'était là que j'avais plus particulièrement travaillé. Ce sont des structures de production qui ne cessent d'être dans le réglage, la modélisation. En tout cas, si on prend les grandes structures de production sur des trends historiques relativement longs, on s'aperçoit qu'en fait, elles ont peut-être travaillé parmi nous comme des appareils, même si elles n'ont pas été sur le champ, et pour beaucoup de ceux qui sont asservis à ça, vécues comme telles. En tout cas, je pense certaines machines-outils ou certaines situations de ce qu'on appelle une machine-outil, qui est d'ailleurs peut-être pas non plus la bonne... on est quand même obligé de mettre machine-outil. Hein, peuvent sûrement, dans certains cas, être définis comme des appareils, je crois. À cause de cette question des questions des réglages, certains réglages, moi je pense que c'est par là que se trouve la voie de réponse, c'est autour de la notion de réglage. Certains réglages ne sont pas simplement des choix de fonction. C'est ce que, dans nos téléphones portables, il n'y a pas de réglage, ce sont des choix de fonction. Mais certains objets sont ouverts à des réglages et certaines machines sont ouvertes à des réglages.